Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 5 juin 1967, les troupes israéliennes attaquent l'Égypte, puis la Syrie. Le 10 juin, tout est terminé. Une guerre éclair qui change le statut d'Israël, devenu en quelques heures un État colonisateur qui perdure aujourd'hui. Cet événement a un impact immédiat sur la vie des populations locales, à commencer évidemment par les Palestiniens, dont la situation devient précaire et qu'Israël qualifie avant tout de terroristes sans distinction. Il conduit également de nombreux migrants juifs à s'installer dans des colonies sans avoir forcément fait ce choix initial, une politique qui pourrait amener le vainqueur d'hier à devenir le perdant de demain. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Israël et les Arabes. Deux nationalismes authentiques qui n'en finissent pas de se heurter. Où conduit la guerre ?
Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Auteur du livre Israël-Palestine, la défaite du vainqueur chez Sinbad Actes Sud. Alors le début de ce mois de juin 2017 marque le 50e anniversaire de la guerre des Six Jours. Une guerre éclair dans le conflit israélo-palestinien qui dure lui depuis plus de 70 ans, mais une guerre qui compte au plus haut point, Jean-Paul Chagnolot.
Ben oui, je crois que on est passé en fait de ce qui a été un conflit israélo-arabe. On avait oublié les Palestiniens pendant très longtemps, dans les années 50, 60. Et avec la guerre de 67, en fait, la question palestinienne est revenue au premier plan dans la mesure où Israël va occuper des territoires arabes, comme le Golan syrien, comme le Sinaï. Et en même temps, Israël va occuper la Cisjordanie, Jérusalem, Est. Jérusalem-Ouest était déjà israélien, et puis la bande de Gaza. Et à partir de là, le nationalisme palestinien va se redéployer, et on va être dans une véritable affrontement entre deux nationalismes, nationalisme israélien et nationalisme palestinien, avec une dimension très importante, c'est l'occupation de territoire par Israël depuis 50 ans. Avec, dans cette occupation, quelque chose qui est assez grave aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une colonisation qui n'a cessé de se développer, de s'intensifier, et qui aujourd'hui est assez considérable et risque de mettre en péril la seule solution possible qui est en fait deux États, côte à côte.
Alors la guerre des Six Jours, c'est une guerre démarrée par Israël et non pas par l'Égypte, comme on l'a dit parfois.
Oui, en fait, c'est très compliqué le démarrage de cette guerre, parce qu'en fait, je pense que personne ne voulait de cette guerre, ni les Israéliens, ni les Égyptiens, peut-être les Syriens, mais ils n'en avaient pas les moyens à l'époque. Ça a été effectivement une attaque d'Israël sur d'abord l'Égypte et ensuite la Syrie, dans le même temps, en quelques heures, dans des configurations militaires qui étaient totalement asymétriques, parce qu'en fait, par exemple, l'armée égyptienne, on l'oublie aujourd'hui, mais il faut le rappeler, était complètement engluée dans une guerre au Yémen. C'est-à-dire que là, vous aviez des dizaines de milliers de soldats égyptiens parmi les bombes, parmi les élite qui était engluée dans la guerre au Yémen. Et donc, que Nasser ait fait tous ces discours assez provocateurs, évidemment, pour dire on veut absolument avancer dans un règlement avec Israël, bon, ça n'avait pas de sens de menacer Israël alors qu'on n'avait pas les moyens. Et du coup, Israël a profité de ce moment. Après, c'est très compliqué, on ne peut pas l'évoquer en deux minutes, mais pour attaquer l'Égypte et en finir avec la domination, disons en tout cas dans les esprits, du nationalisme égyptien et nassérien. Et d'ailleurs, à partir de là, le nationalisme va s'écrouler. Le nationalisme égyptien et nasser va s'écrouler. Il meurt en 70 d'une crise cardiaque.
Alors, c'est une guerre qui se traduit par de la conquête de territoires par Israël, des territoires qui, pour la plupart, aujourd'hui encore, sont sous domination israélienne.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, Israël aujourd'hui est une puissance occupante au sens du droit international, puisqu'on a rétrocédé par un traité de paix en 79 le Sinaï. Donc, le Sinaï est revenu à l'Égypte. Une petite partie du Golan est revenu à la Syrie, mais le reste a été unilatéralement annexé. Et quant à Jérusalem-Est, à Cisjordanie et Gaza, c'est sous occupation. Gaza est enfermé, c'est plus sous occupation, mais ça revient au même. Et donc, nous sommes vraiment dans un schéma classique, si j'ose dire, de puissance occupante depuis 50 ans, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, et c'est fondamental, une colonisation qui est extrêmement dense aujourd'hui et qui est très, très problématique pour l'avenir.
Alors justement, qu'est-ce que ça change précisément pour les populations palestiniennes et peut-être aussi d'ailleurs pour les populations israéliennes?
Si on pour faire bref, je dirais que si c'était simplement une occupation, je mets simplement entre guillemets, bien entendu, parce que 50 ans d'occupation, c'est invraisemblable, et pourtant c'est la réalité, bon, l'armée se retire et c'est fini. Il n'y a plus d'occupation. Sauf que là, on a plus de 600 000 citoyens israéliens juifs qui sont installés dans les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, en contradiction avec le droit international. Et il y a eu une résolution des Nations Unies tout récemment, c'était le 23 décembre 2016, qui a clairement dit que c'était inacceptable et qu'il fallait que Israël arrête complètement et immédiatement, je cite, la colonisation. Donc cette colonisation, c'est comme, au fond, une sorte de fait colonial d'un autre âge, quoi. Et je crois que c'est vraiment un vrai problème. Et c'est pour ça que je parle de la défaite du vainqueur dans ce bouquin. C'est que c'est l'idée que, bon, bien sûr, ils ont un rapport de force qui est favorable, mais juridiquement et en termes de légitimité, ils vont perdre, forcément. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'à terme, Israël puisse s'intégrer dans la région. Mais c'est certainement pas par la violence et par la colonisation qu'ils arriveront à le faire. Au contraire, ça provoque de multiples violences en réaction.
Avec un élément que vous citez dans votre livre, vous dites l'approche israélienne de l'autre partie, c'est que justement, l'autre n'existe pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable... Pendant les années d'Oslo, il y a eu une reconnaissance. On se souvient de la poignée de main entre Rabin et Arafat. Mais comme ça a échoué en l'an 2000, eh bien, en fait, depuis, nous sommes dans une nouvelle négation de la question palestinienne et des droits des Palestiniens. Et aujourd'hui, vous avez en Israël une majorité de droite et d'extrême droite qui est une très grande violence idéologique et politique et qui méprise l'autre et veut imposer ses vues, veut continuer cette colonisation et même, sans doute, ils le disent très clairement, annexer ces territoires. Et ça provoquera, évidemment, des violences considérables. Il y a aujourd'hui des grèves de la faim des prisonniers politiques palestiniens. C'est un peu le symbole dont on ne parle pas assez en Europe ou en France, des profonds ressentiments et des frustrations des Palestiniens. Donc, si on veut avancer, il faut impérativement qu'il y ait des compromis. Ça passe par, en fait, le droit international qui dit qu'il faut deux États. Donc, on retire ses troupes. Après, il faut négocier sur les colonies. C'est compliqué, mais c'est jouable, et avoir un État palestinien à côté de l'État d'Israël. C'est la seule façon de sortir de ce conflit qui par ailleurs, s'il était réglé dans ce sens-là, eh bien, apaiserait en grande partie les tensions de la région. Ça ne réglerait pas, évidemment, les tensions en Irak ou en Syrie, mais il y aurait un facteur qui est tragique depuis presque un siècle. Ça a commencé en 1917, en réalité, avec la déclaration Balfour. Ça apaiserait quand même beaucoup les tensions, les imaginaires aussi, et je crois que ce serait un tournant majeur, historique, dans l'histoire de cette région.
Alors, vous parliez tout à l'heure de dissymétrie, notamment dans les forces armées, mais il y a aussi une autre dissymétrie, c'est la dissymétrie des conséquences, et notamment des assassinats ciblés, comme on dit pudiquement, et aussi des démolitions.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la puissance occupante n'a comme objectif aujourd'hui que en fait affaiblir par tous les moyens possibles les Palestiniens. Et donc pendant certaines périodes, il y a effectivement des assassinats ciblés de cadres palestiniens au motif que c'était des gens qui allaient commettre des actes terroristes. Et dans bien des cas, en fait, c'était des gens qui auraient pu être des négociateurs, qui auraient pu être des cadres politiques, quoi. Et c'est pas moi qui le dis, parce qu'après tout, que vaut la parole d'un universitaire français, on s'en fout, soyons clairs. Mais c'est ce que disent les responsables du Chine. Bête, c'est-à-dire les gens qui ont assuré la sécurité pendant des années et qui continuent à le faire en Israël, qui disent ça, nous avons gagné des batailles, mais il n'y avait pas de vision stratégique. Et la vision stratégique qu'ils défendent, c'est justement, eux aussi ils disent qu'il faut qu'il y ait deux États. Et donc, si on a comme objectif et comme moyen uniquement la violence, on aboutit à créer davantage encore de ressentiments et donc de violence. Donc le seul moyen, ce sont des compromis politiques, comme on a essayé de faire au moment d'Oslo. Et comme ça a été fait avec les Égyptiens et avec les Jordaniens, on a des traités de paix. Alors pourquoi ne pas avoir un traité de paix avec les Palestiniens? Je crois que c'est absolument fondamental. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité au pouvoir en Israël ne veut pas en entendre parler.
D'ailleurs, ça se voit sur les cartes que vous montrez, notamment les cartes de Jérusalem, où on voit finalement l'avancée depuis 1967 de cette annexion de territoire. Dernière en date, c'est aussi pour rendre la chose peut-être définitive, c'est le tramway qui va jusqu'à
Jérusalem. Oui, le tramway est un symbole. Rien n'est jamais définitif sur le plan matériel, parce que la matérialité est toujours, peut être remise en question par une volonté politique. Mais c'est vrai que le tramway pourrait, dans un cadre d'une Jérusalem, où ce qui serait à la fois capitale d'Israël et capitale de la Palestine, ça pourrait être le lien entre les deux parties de la ville. Aujourd'hui, c'est une manière d'arrimer les quartiers nord, qui sont des quartiers de colons juifs, au centre de Jérusalem ouest. Et c'est une ligne qui est assez longue et en fait qui est l'objet de beaucoup de temps. tension parce que elle passe un peu dans les quartiers arabes, elle longe la vieille ville et il y a vraiment des tensions très fortes quand des Palestiniens montent dans ce tramway. J'ai pris souvent moi ce tramway et je voyais à quel point on avait sans arrêt des contrôles aux faciès des jeunes Palestiniens qui montaient dans ce tramway parce que qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est vraiment un symbole de toutes les contradictions et qui pourrait dans un avenir qu'on peut rêver une seconde être un symbole au contraire de lien.
Pour revenir sur la guerre des séjours proprement dit, tout a commencé en fait le septième jour, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, et vous dites que donc le vainqueur a peut-être perdu, sur quoi vous êtes
oui, c'est pas la formule est d'un grand philosophe israélien, Leibovitz, qui m'a dit, je l'avais rencontré il y a bien longtemps quand je faisais des études sur le terrain là-dessus, tout a commencé le septième jour, c'est-à-dire bon, pendant six jours il y a eu la guerre, et le septième jour on a commencé à coloniser. Donc qu'on fasse une guerre, on peut le comprendre, enfin c'est un vaste débat, disait-il, mais il faut surtout pas prétendre ensuite garder des territoires. Quand je dis que c'est un fait colonial d'un autre âge, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on retrouve la mentalité chez les colons et dans le gouvernement actuel, la mentalité coloniale qu'on a connue il y a des décennies dans tel ou tel pays, avec l'idée que cette terre est à nous, que nous avons tous les droits, que les autres n'en ont aucun, et que par conséquent, l'autre est au fond une sorte d'indigène qu'on peut tolérer et pas plus, quoi. Il y a un sentiment de désespérance terrible. Donc voilà, s'il y a vraiment des hommes politiques forts, il faut qu'ils voient loin. Et voir loin, c'est vouloir l'intégration d'Israël par la paix.
Merci Jean-Paul Chagnolot. À lire donc votre livre « Israël-Palestine, la défaite du vainqueur », c'est publié chez Simbad Actes Sud.
Merci.
Il y a désormais près de 400 000 Israéliens qui vivent en Cisjordanie et 200 000 dans les quartiers de Jérusalem-Est. 600 000 personnes vivant sur un territoire qui, aux yeux du droit international, n'appartient pas à leur pays. Un nombre en constante augmentation depuis le milieu des années 70. Et selon l'organisation israélienne La Paix Maintenant, une organisation anti-colonisation, le nombre de constructions dans les colonies a augmenté l'an dernier de 34% par rapport à 2015. Bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Eric.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors pour illustrer le propos de Jean-Paul Chagnolot que nous venons d'entendre, vous vous êtes rendu dans l'une de ces colonies israéliennes dans le nord de la Cisjordanie où vous avez rencontré un couple de franco-israéliens qui a fait son aliyah voici quelques années.
Oui, Katia et Alan Applebaum, ils ont quitté Paris pour s'installer à Eli, une colonie israélienne située entre Ramallah et Naplouse, tout près d'un lieu important dans l'histoire du peuple juif, explique Katia Applebaum.
On a la vue sur Shiloh. Shiloh, c'est à l'endroit où les enfants d'Israël sont rentrés après la sortie d'Égypte, après avoir passé 40 ans dans le désert. Et donc, ils ont installé le tabernacle sur le petit monticule qu'on voit là-bas, qui est resté là-bas pendant 369 ans.
Mais ce n'est pas la proximité de Shiloh qui a dicté le choix de Katia et Alan Applebaum de vivre là. L'agence juive qui prend en charge les nouveaux arrivants en Israël leur a proposé plusieurs destinations. Et Eli les a séduits pour son aspect rural. Après Paris, tous deux voulaient changer de cadre de vie.
Mais si le choix n'était pas religieux, Guilhem, religieux ou politique au départ, quel regard porte cette famille sur la colonisation et le processus de paix?
Eh bien, Katia et Alan Applebaum se sentent parfaitement chez eux à Eli et s'ils souhaitent une résolution du conflit, bien le père de famille ne voit pas pourquoi il devrait partir.
La solution, est-ce qu'elle est d'en rendre des territoires? Je ne crois pas. Parce que je ne pense pas qu'on aurait la paix, ce qu'on appelle réellement la paix, en contrepartie. On peut le voir avec d'autres pays arabes avec lesquels on a fait la paix. C'est une non-guerre, mais pas forcément une paix. Il y a toute une partie de l'histoire à voir. L'histoire de cette région, elle n'est pas sur les 10, 20 ou 30 ou 40 dernières années. Et je pense que les cartes doivent être distribuées bien avant que ces 40, 50 ou 60 dernières années.
Alors autour de cette colonie, il y a des villages palestiniens. Comment les habitants de ces villages jugent, eux, la présence de cette communauté juive ?
En fait, Eli n'est pas la seule colonie dans cette zone. Il y a une succession de collectivités israéliennes sur ces collines. Et ce militant palestinien qui habite au pied de l'une d'entre elles affirme que les conséquences sont nombreuses dans la vie quotidienne des riverains.
La situation est devenue très difficile lorsque les autorités israéliennes ont approuvé de relier les colonies de Shivut Ra'el et Shiloh. Cela a entraîné une confiscation massive de terrains. Ils vont aussi relier Shiloh et Eli. Ils ont confisqué des centaines ou des milliers d'hectares de terrains. Cela va faire le plus grand bloc de colonies de la Cisjordanie. Ce sera une catastrophe pour les Palestiniens qui vivent dans les villages entourés de ces colonies.
Une catastrophe, dit ce militant palestinien qui préfère rester anonyme pour les déplacements entre les villages. Ces colonies s'étendent d'est en ouest et pour aller du nord au sud, eh bien les Palestiniens sont désormais obligés de faire d'importants détours. Quant à la confiscation des terres, autour de chaque colonie, une zone tampon est instaurée, non construite mais interdite d'accès aux Palestiniens. Et ce militant donne un exemple. Dans son village, moins de 2% des terres sanctuaires restent accessibles aux habitants. Enfin, des organisations de lutte contre l'occupation recensent des cas de violence de la part de certains colons sur les riverains palestiniens. Ils empêchent notamment paysans et bergers d'accéder à leurs terres et les personnes rencontrées dans ces villages, eh bien, elles parlent d'attaques quotidiennes.
Merci Guilhem Deltey, correspondant de RFI à Jérusalem, pour cet éclairage sur Israël, pays colonisateur depuis la guerre des Six Jours en 1967.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, en tête toujours Donald Trump qui ne fait plus tellement l'affaire de la droite israélienne.
Le président américain continue en effet à occuper les premières pages de la presse et à faire les titres de tous les médias en Israël. Non, Israël n'est pas une colonie américaine, titre le site du quotidien Yediot Aharonot. Israël ne quitte pas l'accord de Paris, un accord qui ne porte pas atteinte à l'économie israélienne, bien au contraire, estime-t-on au sein du gouvernement israélien. Mais Eric, Israël rue dans les brancards. Comment se fait-il, demande un des commentateurs, que Donald Trump applique à la lettre toutes ses promesses électorales, sauf celles faites à Israël. L'ambassade des États-Unis ne passera pas à Jérusalem. Déception en Israël, titre Israël Yom, le journal proche du pouvoir. Yediot paraphrase le verset biblique. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie, le président américain semble avoir oublié Jérusalem. Un président contre le monde tout entier, proclame encore le journal. Trump a promis, mais il n'a pas promis de tenir sa promesse, interprète un autre éditorialiste. Pour Haaretz, la preuve est faite, il n'y a pas de cadeau gratuit. Combien était-il facile pour Trump d'acheter le cœur de la droite israélienne avec des mots sympathiques, mais sur le terrain, il n'y a aucun changement. Et puis aussi à retenir ce sondage publié par Israël Hayom, pour la majorité des Israéliens, la souveraineté sur l'ensemble de Jérusalem est plus importante qu'un accord de paix.
Alexandre, plusieurs journaux se penchent sur la situation tendue dans le Rif marocain à Al-Hoceima.
Tout à fait. Certains éditorialistes comparent même ce qui se passe au Maroc à l'incident avec un vendeur ambulant qui avait été le détonateur de la révolution tunisienne. Dans le cas marocain, il s'agit d'un poissonnier mort, écrasé dans une benne d'ordures où il s'était installé pour protester contre la confiscation de sa marchandise. Les conclusions du parquet selon lesquelles il s'agissait d'un accident ont mis le feu aux poudres, estime la presse arabe. Mais d'autres éditorialistes de cette même presse estime que la situation au Maroc et en Tunisie n'est pas comparable. Ils estiment par contre que la situation est grave et qu'elle menace le gouvernement marocain.
Quand Alexandrie cherche à faire concurrence à Pise, c'est un sujet qui fait la une des journaux égyptiens, Alexandre.
Oui, il s'agit en fait d'un immeuble de 15 étages dans le quartier populaire de Hazarit à Alexandrie. Un immeuble qui a décidé de se pencher comme la tour de Pise. À la différence avec la merveille italienne, la tour allumette d'Alexandrie s'est inclinée au point de s'appuyer sur l'immeuble de l'autre côté de la rue étroite qui les séparait. La tour allumette, c'est le surnom que donnent les Alexandrins à des bâtiments de plus de 10 étages qui sont construits sur de minuscules terrains. Une cage d'escalier occupe souvent plus de la moitié de la surface de l'étage. La propriétaire de cet immeuble a été arrêtée pour infraction aux lois de construction. Une accusation accueillie avec sarcasme par des éditorialistes qui estiment que près de la moitié des immeubles d'Alexandrie sont illégaux dans une ville où la corruption règne depuis des décennies.
Michel, le problème des terres réclamées par les Bédouins dans le sud d'Israël refait surface.
C'est un sujet qui risque de faire du bruit et qui ce week-end barre la une du quotidien Maariv. Le gouvernement israélien entend changer l'ordre des choses dans le désert du Negev. En gros, il s'agit d'inscrire les parcelles de terre dans les registres du cadastre pour tenter de mettre fin à la controverse avec les tribus bédouines qui affirment être les propriétaires de ces terres depuis des siècles. Le résultat, c'est que toute la partie occidentale du Negev sera exclue de tout règlement à l'amiable avec les tribus des Bédouins. Les règles du jeu changent, souligne l'auteur de l'article.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, François Porcheron, Éric Bataillon. Vous pouvez nous réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons le sort des Yézidis en Irak. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.